Nous te disons merci pour ta parole qui est esprit et vie. Seigneur, nous appelons à toi ce soir. Merci pour ton nom merveilleux. Seigneur, ton nom, c'est un salut pour nous tous. Seigneur, révèle-toi comme l'esprit. Amen.
Der Herr ist der Geist. Lob den Herrn. Lass uns mal alle zusammen Römer 10, Vers 13 aufschlagen.
Romains 10, le verset 13.
Zumindest die, die diesen Vers nicht auswendig können.
Ceux qui ne connaissent pas ce verset par cœur.
Und lassen uns gemeinsam in allen Sprachen
et on peut le lire dans toutes les langues.
Voller Glauben lesen. Denn jeder, der den Namen
des Herrn invoquera le nom du Seigneur, sera sauvé.
Noch einmal. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Jeder. Amen.
Chacun. Quiconque.
Jeder, der den Namen
quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé.
Amen. Herr, ich will gerettet werden.
Seigneur, je veux être sauvé.
Amen. Wie erfährst du Errettung?
Comment est-ce que tu expérimentes le salut?
Öffne dein Herz und öffne
ouvre ton cœur et ta bouche. On a lu ce verset,
aber haben vielleicht noch gar keine Errettung erfahren,
mais peut-être qu'on n'a pas expérimenté ce salut parce qu'on ne l'a pas invoqué.
Wir können so einen Vers
on peut lire un tel verset peut-être 100 fois,
aber es ist keine Garantie,
et ce n'est pas une garantie que tu seras sauvé.
Und du kannst ihn einmal lesen,
et tu peux le lire une seule fois, le mettre en pratique et tu expérimentes le salut. Parce que celui qui croit la parole, maintenant c'est l'occasion de le faire. Invoque son nom maintenant. Je suis sûr, vous avez besoin de salut tout comme moi. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Oh, Seigneur Jésus, merci Seigneur. Merci parce que celui qui invoque ton nom sera sauvé. C'est vraiment merveilleux. C'est une expérience que nous pouvons toujours faire à nouveau. Et il faut le faire. Il faut la renouveler toujours. J'aimerais montrer ce soir que, à travers la connaissance de beaucoup de vérités, nous n'aurons aucun salut si nous ne les expérimentons pas. Mais par l'expérience, nous sommes, par la réalité, nous sommes sauvés, nous avons la liberté. Le Seigneur est dans notre esprit. C'est une révélation merveilleuse. Et j'ai besoin de cette expérience, de ce témoignage, toujours à nouveau. Tu es dans mon esprit. Je vous encourage tous ce soir. Utilisez votre bouche. De telles vérités, il faut les proclamer. Peut-être n'as-tu pas trop le courage de le dire devant tant de gens, comme ici. Mais ça ne t'empêche pas d'ouvrir ta bouche et de le dire peut-être assez, à voix basse, dans ton coin, mais de dire, Seigneur, merci, tu es dans mon esprit. Merci, tu vis en moi. Paul dit dans 2 Corinthiens 4, au verset 13,
weil wir denselben Geist des Glaubens haben, wie geschrieben steht. Ich habe geglaubt,
comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Parmi nous, pendant cette conférence, il y en a peut-être qui n'ont pas proclamé de choses par la foi, mais ce n'est pas trop tard. Maintenant, commence à le faire. La parole du Seigneur, elle doit sortir de ta bouche. C'est pas besoin de faire tant d'histoires, de théâtre. proclame la parole. Nous verrons plus tard l'effet que ça a sur nous d'avoir une telle expérience. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons. Ce soir, je crois et c'est pour ça que je vous parle. Le Seigneur, se révèle d'une manière claire. On a entendu beaucoup d'expériences ces derniers temps. C'est simple de se tourner vers le Seigneur, de se tourner vers cette plénitude qu'est le Seigneur. Ne sois pas une personne qui est auprès d'une rivière qui coule sans boire et qui meurt de soif. Ouvre donc ta bouche et bois de cette eau. Il est l'Esprit. Nous sommes en train de parler de cela en ce moment. Toute la richesse de Christ est dans le Saint-Esprit, en moi, dans mon esprit. Et j'attends maintenant que l'Esprit souffle sur moi. C'est comme un vent qui souffle et j'attends jusqu'à ce que j'ai ce sentiment, cette impression d'être en esprit. Maintenant, je me sens en esprit. Ça, c'est un des extrêmes. Est-ce que tu vas avoir cette attitude? Et puis l'autre extrême, ça pourrait être, tu prends la parole. Tu lis, Seigneur, tu es l'Esprit, et maintenant tu dois, tu essaies d'observer tout ce qu'il y a écrit, et tout, par exemple, l'Épître aux Éphésiens devient pour toi un livre de loi, un livre d'exigence, et que tu veux remplir par ta nature humaine. Paul était un tel homme, quand il écrit dans Romains 7 comment il était. On pourrait lire quelques versets là-dessus. Je ne veux pas trop m'attarder. En fait, la fin est assez misérable dans ce chapitre, en fait, au chapitre 7. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Paul s'est réjoui de pratiquer, de mettre en pratique les ordonnances de Dieu. Il avait une sorte de joie intérieure, enfin une joie humaine. Mais en fait, il a remarqué en lui, il y a une autre loi qui combat contre ça, et c'est la loi de la chair, la loi du péché. Et puis il y a aussi une loi dans notre intelligence, dans nos pensées, dans nos connaissances. Il dit, cette loi, en fait, me rend captif. J'aimerais bien parler de cette prison courtement, cette prison qu'a expérimenté Paul, dont il parle dans ce verset. Je crois que parfois on est dans cette prison. Je sais que les exemples sont toujours un peu boiteux, mais Paul s'est senti à l'étroit, en fait. Donc je vais quand même vous donner un exemple, même si c'est pas tout à fait... Voilà, je dessine donc une sorte de bouteille qu'on utilise en physique. Elle est très large en bas. Elle ressemble à un triangle et puis le goulot est étroit en haut. C'est une sorte de bouteille en verre. Paul se sentait captif. En fait, il y avait des lois qu'il aimait. Il y a des lois qui le régissaient. La loi du péché, d'une part. La loi de l'entendement, ce qui lui semblait raisonnable dans son intelligence. et puis aussi une certaine joie à la loi de Dieu. Mais il se trouvait toujours dans cette sorte de prison. J'aimerais faire quelque chose pour Dieu. Je sais que la parole de Dieu est juste, mais je n'y arrive pas. Il le dit au verset 19, « Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. » Ici, on peut même ajouter encore une autre loi. C'est en fait les lois qu'il dont il se charge lui-même. Hein. Il veut accomplir ce que Dieu dit, quoi. Il se met de la pression. En haut se trouve là-dehors, en fait, c'est ce qu'il aperçoit vaguement, c'est ce qui est bon. Donc c'est ce qu'il voudrait faire, mais il est toujours captif de cette prison. Et il dit au verset 18, « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. » Le péché, là en bas, la loi du péché, c'est sa chair, c'est sa, son âme détruite, déchue. Son intelligence lui dit, tu devrais, par exemple, aller à la réunion, tu devrais faire ceci ou cela, tu devrais être ponctuel. J'ai appris. Mon intelligence me dit, par exemple, mon entendement, mes raisonnements, tu devrais lire la Bible tous les jours. Et j'essaie de le faire, et puis j'arrive pas. Je suis comme dans une prison, je chute, je suis en échec. J'essaie de grimper là vers ce qui est bon, et hop, je tombe chaque fois. Parce que la force personnelle n'est pas suffisante. Il y a une loi qui m'attire vers le bas, qui me fait tomber. Je vois une loi dans mes membres, une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement, et chaque fois j'échoue. Et au verset 24, il termine, il dit « Misérable que je suis ». Vraiment, posez-vous cette question. On a donc entendu une parole si merveilleuse ces derniers temps, n'est-ce pas? Tellement vite, on a ce sentiment. « Ah, je suis un incapable. Je suis misérable. Qui pourra me délivrer de ce corps de mort ?» Il ne parle même pas de chair, il dit carrément du corps de cette mort. « J'ai pas envie d'ouvrir la parole. Je suis fatigué. » Ah, ou bien je ne vais pas à la réunion, je suis cuit. Mes efforts pour essayer de faire ce qui est bien, de mettre en pratique toutes les bonnes choses qu'on m'a conseillées, c'est toujours ce même domaine où on se retrouve, de ce domaine de la chair, du moi, qui essaie de plaire à Dieu. Même la parole que j'entends, je la juge, bonne ou pas bonne. Le message a été bien, ou pas. Puis après, je regarde ma vie. Ça ne marche pas, tout ça. J'aimerais bien, j'essaye. Et toujours à nouveau, on tombe dans ces considérations. Et ça, c'est la religion. Le mot religion veut dire ce désir d'accomplir des ordonnances. J'essaye volontairement, consciemment, en fait, d'accomplir ce que Dieu dit. Et je suis dans ce domaine. Je me retrouve toujours à nouveau dans ce domaine. Mais on ne veut pas rester là, n'est-ce pas? Je ne veux pas rester là, dans cette chair. Ou dans les œuvres de la chair. Si on lit Galates 5, qui parle des œuvres de la chair, l'impudicité, les inimitiés. J'aimerais pas faire tout ça, mais chaque fois je retombe. Idolâtrie, dispute, jalousie. Il y a souvent du trouble, des querelles, des divisions, par exemple dans les couples, dans les familles. Voilà, je me retrouve là-dedans. De temps en temps, j'essaie de grimper vers ce qui est bien. Et j'aimerais avoir un peu de cette liberté. Et j'aimerais en fait me hisser hors de cette bouteille et avoir un peu d'air, quoi. Mais j'y arrive pas parce qu'il me manque une loi. Et cette loi se trouve dans Romains 8. Une autre loi. Cette loi qui dit au verset. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Là, il se rend compte, il y a Dieu. Et au verset 1 du chapitre 8, il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Est-ce que vous ne connaissez pas ce verset? Vous l'avez vu, vous l'avez lu peut-être des centaines de fois ou entendu, vous le connaissez. Ce verset est pour nous. Nous devons le croire. Nous disons Amen par la foi à ce verset. Proclame-le à toi-même. Oui. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Et j'entre dans une autre sphère, dans une autre loi, la loi de l'esprit, où il y a la liberté. On n'a pas besoin de bâtir par notre âme, dans notre âme, une sorte de rampe qui nous permet d'aller dans l'esprit. Puis on essaie de monter, on espère qu'on va pouvoir se glisser dans l'autre sphère. Non. Je vais attendre jusqu'à ce que j'ai une impression précise, je me sens comme ça et je saurai que je suis dans l'esprit. Non, c'est marqué, cette loi nous a affranchis. Si tu peux pas te l'imaginer, ben, écoute, ça, c'est dans tes pensées. C'est vrai que c'est difficile de l'expliquer. Parce qu'il y a, je crois pas sur la terre, deux lois qui puissent agir simultanément. Paul dit, cette loi m'a affranchi. Et moi, je peux dire au Seigneur, oui, cette loi m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Elle ne va pas le faire, c'est déjà fait. Depuis que j'ai accepté le Seigneur, j'ai cette liberté, je suis libre, libre de toujours vouloir plaire au Seigneur sans y arriver. Aussi libre du péché. Libre de la loi de la mort et du péché. De devoir toujours à nouveau retomber dans ce péché. Il ne s'agit pas d'appliquer cette loi. Elle est là, elle m'a libéré. Si vraiment je le crois, par la foi, je dis Amen. Je le prends, je le crois, je l'applique, alors ça se réalise. Toi, tu dois te décider, on en a parlé déjà plusieurs fois. Toi, tu dis, oui, je me décide maintenant pour l'esprit, je veux être libre. Je suis même plus, en fait, fixé sur mon comportement. Se comporter d'une certaine manière, ça, c'est aussi dans cette prison, dans cette sphère. Qu'est-ce qu'on attend de toi ici, dans la réunion, par exemple? Qu'est-ce qu'on attend de toi? Oublie donc ces préceptes, ces considérations. Le point, c'est de se tourner vers l'Esprit. Tourne-toi vers l'Esprit, là où se trouve Christ. Christ se trouve dans cet endroit, pas dans ce goulot où tu vois de loin ce qui est bien et tu n'arrives pas à l'accomplir. Non, vraiment, je n'arrive pas à l'expliquer mieux que ça. Je peux seulement te dire, essaye. C'est vraiment tout à fait une autre sphère. C'est pas ce que je pense, en fait. Ce matin, on a lu ces versets, ces choses qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme. Tu peux pas l'expliquer, tu peux que l'expérimenter. Si je suis dans cette sphère de l'esprit, alors je remarque toute cette pression religieuse est partie. J'ai pas besoin de tout le temps d'essayer par exemple de pas être amer à propos de mon frère. Souvent dans des situations, je me dis, ah là là. Pourquoi il fait ça? Pourquoi il fait ci? Et puis lui, il pense la même chose de moi d'ailleurs. Ok, je vais essayer de... Ouais, j'en parle pas, j'essaie de l'ignorer. Mais là, tu te retrouves de nouveau dans cette sphère d'essayer de plaire à Dieu. Non. Tu peux dire, Seigneur, merci, je suis libre de ça. Et tout à coup, notre relation est différente, elle est dans la liberté. Souvent, il y a des choses qui me dérangent ici. Comment je fais avec tout ça? Je prends un exemple. Voilà, je donne l'exemple de tout à l'heure. Il y a une sœur qui propose un chant, et hop, on ne le chante pas. Qu'est-ce que je fais avec ça? Je peux vous dire, je peux dire que si je suis dans l'esprit, je suis pas amer. Je peux vous dire, même si on n'a pas chanté mon chant, t'as pas besoin absolument de forcer le passage. Ah, vous voyez, là, il y a des exemples pratiques. Je peux vraiment tout de suite savoir où je me trouve. Si je commence à argumenter, alors je peux vous dire, je suis dans cette prison. Ça, c'est un sacré élément de cette prison, l'argumentation. Et c'est sûr que ça échouera. Dis donc au Seigneur, oh Seigneur, je suis heureux que je sois libre, tu m'as rendu libre, merci Seigneur. Ne sois pas fixé sur des arguments, mais sois fixé sur le Seigneur, sur l'Esprit. Seigneur, où te trouves-tu? Je vais te trouver. Si on considère notre propre expérience, on réalise qu'on est quand même souvent dans cette sphère, on veut plaire à Dieu. C'est tout des choses spirituelles. Dieu est là, sa parole et tout, mais en fait, on fait tout par nous-mêmes, par nos propres forces et ça marche pas. Que dit Paul? Je me lasserai jamais de lire à nouveau toujours ces versets. Le Seigneur est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. C'est dans 2 Corinthiens 3, 17. Je voudrais encore plus découvrir cette réalité. J'ai déjà un peu touché cette réalité, mais la semaine prochaine, je veux encore plus le découvrir. Ce soir, chaque jour, Là, Seigneur, où tu te trouves, là est la liberté. Être libre pour l'esprit. Ne me comprenez pas mal, ça ne veut pas dire « fais ce que tu veux ». On n'est pas libre de faire tout ce qu'on veut quand on est dans la présence du Seigneur. Non, c'est que je suis délivré de cette loi, du péché, de la mort. Par exemple, ma colère n'a plus aucun fondement. Cette base, elle fond. Quand est-ce que cette liberté a commencé? Ben, à Pentecôte. Les Juifs, à l'époque, étaient pleins de règles, d'ordonnances. Ils ont essayé de respecter ces règles. Et il les envoie. Il leur dit, Jésus les envoie et leur dit, vous allez être mes témoins. Et pourquoi? Parce qu'en fait, l'Esprit est venu sur eux et ils ont été délivrés de ces lois qu'ils essayaient de respecter. C'est pour ça que l'Esprit a été déversé, pour que l'Église soit construite, bâtie. Nous voulons vraiment entrer dans cette liberté. Seigneur, je veux vraiment le dire pour moi, et en me le disant, j'ai la foi qui vient parce que je me parle à moi-même, je le proclame aussi pour moi. Oui, c'est pour ça que je vous encourage à proclamer la parole parce que tu te l'as dit à toi-même alors cette vérité. Seigneur Jésus, dans Romains 8, Paul parle dans le verset 12, « Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. » Paul, dans le chapitre 7, on voit qu'il s'occupait que de ces choses. La loi, il était redevable à la loi. Non, il a été délivré de ça. Maintenant, il appartient à cette sphère où l'esprit le rend libre. Tu peux vraiment avoir cette réalité maintenant. Dans une demi-heure. Tu n'as pas besoin d'attendre une demi-heure, c'est en toi. Si tu as accepté le Seigneur. N'argumente pas, ne dis pas, c'est pas le moment. Maintenant, je suis pas prêt, je suis pas bien. N'oublie pas les sensations que tu as, c'est toujours cette prison. Peut-être, c'est vrai, suis-je triste? Peut-être, je suis très joyeux. Et alors? Nous marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Je cherche le Seigneur dans mon esprit. Seigneur, où es-tu? Je te cherche maintenant. Et en faisant ça, je suis, par exemple, délivré de mes humeurs, de mes impressions. Moi, je pense ça, je pense si. Dans l'esprit, tu es libre. Donne au Seigneur l'occasion de te remplir. Peut-être il y a une chose qui me préoccupe vraiment. Et j'oublie carrément de lire la Bible. Je suis peut-être occupée aussi au niveau... J'ai trop d'heures de travail, je tombe dans mon lit, je dors tout de suite, j'ai plus le temps. C'est une sorte de captivité. Dans la vie quotidienne, des fois, on peut être surmené. Mais on peut briser ces chaînes en disant, maintenant, Seigneur, je me tourne vers toi. Je suis libre de ces, de ce stress dans ta vie quotidienne, dis au Seigneur, « Oh Seigneur, fais-moi penser à toi. » Par exemple, quand tu étudies, j'ai tant de choses à préparer, à étudier, à faire, et tu peux dire, « Seigneur, rappelle-toi à moi. » Et alors tu dis, « Oh Jésus, même si c'est qu'une minute, Seigneur, merci. » Merci, t'es là. Je t'appelle. Je viens à toi. T'es là maintenant pour m'aider, me secourir. Et dans les derniers temps, au milieu de la journée, souvent, j'ai eu cette expérience. Par exemple, en allant au WC, il y a tellement de collègues autour de moi, tout doucement, dans mon coin, j'ai dit, Seigneur, ouais, t'es là. Tu m'aides, tu me secours. Et j'ai expérimenté cette libération à cet instant-là. Là où je touche le Seigneur, je suis libre. Si tu invoques le Seigneur, tu seras sauvé. Essaye, c'est magnifique. Et tu verras la différence entre ça et cette loi qui te rendait captif. J'ai pas tellement envie de faire trop de descriptions. Comment c'est? Je voudrais répéter ce qu'on a déjà entendu. Le Seigneur donne à chacun selon nos besoins. Mais cette expérience de la libération, on peut la faire tous. Je suis plus si dépendant de choses qui me paraissaient si importantes auparavant. Je sais pas, des hobbies, ou bien de gens que j'aime pas, peut-être par exemple, même à la réunion. Je suis libre de tout ça. Vous connaissez ça certainement, n'est-ce pas? Vous venez ici, et puis je dis, oh, celui-là me dérange. Oh, celle-là. Ah, celle-là, elle fait que tousser, ça m'embête. Ça me dérange. Je me laisse. Ça me détourne. Ah, il y en a encore un qui se balade là-bas derrière. Toutes les réunions, il doit se lever, c'est pas croyable. Même si tu touches le Seigneur, tu es même libre de telles pensées. Tu es libre! Parce que sinon, t'es toujours à nouveau dans cette prison. Alors là, quand tu sens ça, quand tu t'en rends compte, tourne-toi immédiatement vers le Seigneur. Que tu te sentes bien ou mal, mais vraiment, tourne-toi vers le Seigneur. Appelle le Seigneur. Seigneur Jésus! Pas pour te libérer de cette bouteille, de cette... Non, c'est pour que tu ailles dans cette autre sphère. Si j'appelle le Seigneur, je suis vraiment immédiatement dans cette liberté. Seigneur, je te loue. Tu vis en moi et je suis libre de ces choses. Seigneur, nous te louons. Tu peux peut-être pas... T'imaginer comment c'est. Alors, n'essaye pas d'imaginer ce que c'est. Essaye. Essaye simplement de le faire. Tourne-toi. J'ai pas besoin de vivre toujours dans cette chair. Quelle libération! Tous les hommes sont dans cette prison. Mais c'est pas nécessaire d'y rester. Nous pouvons être libres. C'est pas une fatalité. Et alors, on a de telles des expériences comme c'est décrit dans Romains 8. Nous ne vivons plus dans notre corps mortel. Enfin, nous sommes plus tout le temps liés à notre corps mortel. Je suis pas forcément... c'est pas la fatigue s'enlève pas parce que j'ai fait du sport. Elle s'enlève parce que le Seigneur me libère de ma fatigue. Je veux me tourner, je veux te toucher, Seigneur. Le nom de Jésus qui Ouais, brise toutes les chaînes, essaye. Maintenant, j'aimerais développer cet aspect de proclamer. J'aimerais en parler très directement en rapport avec la réunion. C'est quoi la réunion? En fait, la réunion est un lieu où on est libre. Tu es en fait encouragé, poussé dans cette liberté. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup, on proclame beaucoup les vérités de Christ. Et on peut dire Amen. Quelqu'un dit un verset, je dis oui Seigneur, je le crois, c'est pour moi. La foi, n'oubliez pas, est dans l'esprit. Nous avons eu un esprit de foi. Comment est-ce qu'on se rend à la réunion? C'est notre expérience souvent. On rentre, on s'assoit, et puis on regarde autour de nous. Et les minutes passent. Après encore. 10 minutes se passent, un quart d'heure. Je regarde qui arrive. Ah, lui, il est en retard. Je suis carrément détournée de l'essentiel. Nous avons la chance, par cette loi qui est en nous, d'être même avant de t'asseoir ici, tu peux être libre. Tu as cette chance. Tu as déjà essayé ça? Tu viens? As-tu essayé ça? Tu viens et tout de suite, tu appelles le Seigneur et tu dis, Seigneur, maintenant, tu me sauves. Ou bien, Seigneur, tu peux dire avec d'autres, tu es notre sauveur. Et l'un et l'autre diront, Amen, oui, moi aussi. Je veux aussi proclamer qu'ici je suis libre. Proclame la parole. Elle te rend libre. Ça te rend libre parce que tu le fais dans la foi. Tu le proclames avec foi. Pas seulement écouter ce qui se passe là-devant. Puis en fait, j'essaie de comprendre tout ça dans mon intelligence. On n'est pas obligé de tout comprendre. Et puis d'analyser, ok, ce verset, il me fait, ça veut dire quoi exactement? Et puis, avec quel verset c'est en lien? Non! Vraiment, sois libre. Et je peux vous dire que cette liberté, elle passe beaucoup par notre bouche. Si tu sens que tu es captif, alors parle, proclame quelque chose, chante, propose un chant. Peut-être tu lis trois lignes, une phrase. On a chanté, par exemple, je voudrais être un vainqueur. Alors dis-le à voix haute, je voudrais être un vainqueur. Et il y a un approvisionnement qui est là quand tu proclames avec foi ce genre de choses. Vous allez voir, je peux vous dire que la réunion va être différente. Je peux encore vous donner une expérience par rapport à parler. Si tu parles, tu entraînes les autres dans cette liberté parce que toi, tu parles par la foi. Ça peut réveiller celui qui est à côté de toi. L'encourager. Essayez de bien me comprendre, de comprendre ce que je veux dire. Par exemple, tu racontes une expérience, comment tu as expérimenté le Seigneur. C'est bien. Mais surtout si tu proclames les versets qui sont dans la Bible et tu le proclames dans la foi. Et ça, c'est sûr. Ça va tourner ton cœur parce que c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu donne la vie. C'est la vie. Quand l'autre, quand on raconte beaucoup d'histoires, des fois, ben voilà, c'est pas si évident pour les autres d'écouter. Paul le dit à Timothée, si tu proclames ma parole, eh ben tu vas te sauver toi-même et tu sauveras ceux qui t'écouteront. Ici, il y a beaucoup de frères et sœurs qui ont besoin d'être sauvés. On est peut-être peu à Bâle. S'il y en a un qui parle, qui proclame cette parole avec foi, eh ben vraiment, les autres sont entraînés dans cette liberté parce qu'ils disent « Amen ». Oui, je mets en pratique cette loi de l'esprit de vie et je laisse ce qui me rend captif derrière moi. C'est plein d'esprit, plein de vie. Et vraiment, ça donne beaucoup d'espace, beaucoup de place à l'esprit. Ça lui donne aussi l'occasion de briller, de donner la lumière sur un point, par exemple. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Ça, c'est vraiment le dernier point que j'aimerais développer encore ce soir. Si nous écoutons en étant en esprit, si nous sommes tournés vers le Seigneur, toujours à nouveau, nous détournons de nos préoccupations, de tout ce qui s'est passé dans la journée, et on dit, Seigneur, je suis là, je t'écoute, parle-moi. Et si c'est l'esprit qui dirige la réunion, alors il expose aussi la chair. Il le fait. Dans Galates 5, Paul parle de ça. Au verset 16, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Nous, on aimerait tellement écraser la chair du mieux qu'on peut. Mais si tu te tournes toujours à nouveau vers le Seigneur, je cherche le Seigneur dans la réunion. Je dis, Seigneur, où es-tu dans ce témoignage? Au verset 24, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Je ne suis pas redevable à la chair. Elle a été crucifiée. C'est fini. Et alors, l'esprit peut vraiment exposer les choses de la chair très clairement. Comme c'était marqué dans Galates 5, il peut montrer, voilà, ça c'est un fruit de la chair. Dans 1 Corinthiens, dans 1 Corinthiens, Paul parle de choses de manière très très claire. Par exemple, il dit au verset 10 du chapitre 1, « Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, à ne point avoir de division parmi vous. » Ça, il le dit tout de suite au début. Il vient juste de dire « Dieu est fidèle », le verset d'avant. « Lui qui vous a appelé à la communion de vous, de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. » Et là, souvent, on s'arrête, on lit, Dieu est fidèle, Amen, c'est fini, et puis voilà, je m'arrête là. Mais non, après, il y a une suite, l'Esprit voudrait continuer à parler, il veut exposer la chair. Il veut mettre le doigt sur des choses très précises. Et l'Esprit, le Seigneur le fera, sinon on est prêt à dire... Amen, merci Seigneur, je suis d'accord, je suis content que tu mettes le doigt sur certaines choses. N'oubliez pas que, par exemple, toutes les divisions commencent d'abord dans nos pensées. J'ai entendu quelque chose peut-être sur quelqu'un. Il y a quelque chose qui s'est passé peut-être. Et puis, je commence à penser sur ce frère et puis j'alimente ses pensées. D'abord, je le vois pas. Peut-être je le vois pas souvent, mais en moi, il y a une racine amère qui commence à pousser. Et puis tout à coup, quelqu'un dit ce verset. Il dit qu'il ne doit pas y avoir de division et tu commences à argumenter si tu es dans ce domaine. Tu dis non, c'est pas vrai. Moi, je n'ai pas de division contre ce frère. Mais par contre, si l'esprit parle et je lui laisse la place, l'occasion de traiter mon cœur, alors là, je n'argumente plus. Et il me dit, tu sais, ça c'est la chair, tes pensées sur ce frère. Et ça, c'est crucifié, c'est à la croix. Ou plus loin, il parle aussi dans le chapitre 10, au verset 7, il dit, ne devenez point idolâtres. Et je commence à y argumenter, mais tu sais, Seigneur, j'ai pas d'idole à la maison. Moi, j'ai quelque chose. Vous savez de quoi je parle? J'ai une autre idole à la maison, ces trucs-là qu'on ouvre, là, un ordinateur, quoi. Le Seigneur va peut-être me dire, mais tu sais, ça, c'est une idole. Pour toi, c'est une idole, cet ordinateur. Tu es tout le temps occupé à ça. Oh, mais Seigneur, juste encore un moment. Vraiment, juste un petit moment encore. Et tu argumentes. Tu es toujours dans ce domaine de... Tu n'es pas libre. Pas dans l'esprit. Là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Et je ferme cet ordinateur et je dis, Seigneur, d'accord. Ok, je lis ta parole à la place. Laisse le Seigneur te parler. Laisse-le te parler. Donne-lui l'occasion. Donne-lui l'occasion d'exposer cette chair en toi. Je peux te dire, nous avons tous d'autres œuvres de la chair qui s'expriment. Tes tentations, tes désirs, tes tentations ne sont pas les mêmes. Mais on est quand même pareil. Donne au Seigneur cette possibilité de t'éclairer, d'exposer ces choses. Imaginez-vous, chacun, nous, dans notre endroit, là où on est, on donne cette place au Seigneur. On le laisse nous parler sur des choses qu'il doit traiter. Tu le laisses mettre le doigt sur des choses qui ne lui correspondent pas. Tu le laisses te montrer ce dont il ne veut pas, ce qui n'est pas de lui, ce qui ne lui correspond pas. Et toi, tu peux dire, oui, amen, imaginez si on a cette expérience tous et qu'on dise, Seigneur, je me repens. Oui, il y a cette expérience dans Éphésiens 5, au verset 25, on voit que le Seigneur s'est donné, en fait, pour cette raison. Le Seigneur s'est donné, il s'est livré lui-même pour nous sanctifier. En fait, les saints sont ceux qui donnent au Seigneur la possibilité de traiter notre péché, nos tâches. Il dit donc plus loin, il veut la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée par le baptême d'eau afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Irrépréhensible! Parfaite donc. Le Seigneur nous voit comme parfaits. Dans son amour, il attend patiemment qu'on lui donne cette occasion d'enlever nos manques. Essaye donc de croire à ça. Oriente-toi. Obéis à la parole. Donne-lui cette opportunité pour que bientôt il puisse vraiment nous présenter comme cette épouse glorieuse. Qu'on puisse être purifié de toute chair. Il aimerait une telle épouse. C'est pas une épouse, une église parfaite. Elle est seulement composée de membres qui s'exercent à être libres, à expérimenter cette liberté dans l'esprit. Alléluia pour l'esprit. J'aimerais pour terminer redire et insister sur ce point. Tourne-toi vers le Seigneur, vers l'esprit, que tu te sentes bien ou mal. On pourra peut-être chanter ce dernier chant plus tard. Je voudrais vraiment avoir cette liberté, moi, personnellement, expérimenter cette libération par la loi de l'esprit de vie. Amen.